Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous. Nous allons, si vous voulez bien, ouvrir un passage dans notre Bible. Nous allons lire ce texte qui nous est rapporté par Matthieu au chapitre 12. Voilà. Et nous allons, donner quelques commentaires sur, ces paroles. Voilà. Alors, je rappelle. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 9, à partir du verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser, il leur répondit, « Lequel d'entre vous ?» S'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Voilà, et bien que le Seigneur nous éclaire ce soir dans la compréhension de ce texte, qui s'inspire, en effet, prophétiquement, là, de cet homme qui a précédé de 800 ans, Jésus, celui dont il est question, celui que nous trouvons dans l'Évangile. Et nous le voyons réaliser précisément les prédictions qui lui étaient attribuées, destinées, et nous voyons Jésus les accomplir. Alors, la méditation commence tout simplement par un fait pris sur le vif. Jésus se trouve dans une synagogue. La synagogue, simplement le rappeler, c'est l'endroit où se réunissent les Juifs pour faire leur dévotion, adorer Dieu, prier Dieu et tout ce qui comporte, tout ce que cela peut comporter de la vie religieuse d'Israël. Et Jésus avait l'habitude finalement d'aller, c'est vrai, dans les synagogues, il était un familier lui-même étant juif, mais c'est peut-être pas dans la synagogue où l'on trouve le plus de bienveillance et d'accueil. Nous allons le voir. C'est vrai pour Jésus, mais ça s'est retrouvé finalement à travers tous les temps et tous les siècles dans ceux qui ont voulu tout simplement apporter la bonne nouvelle là où normalement elle aurait dû être accueillie. On le voit parmi les apôtres, je pense à Paul, qui à un moment donné avait commencé son ministère apostolique en allant de synagogue en synagogue dans tous les pays en dehors d'Israël. Et à un moment donné, on peut dire qu'il a secoué la poussière de dessus ses pieds, parce que finalement, c'est là où il y avait le plus de contradictions, le plus d'opposition, voire de persécution. Alors, c'est quand même assez mystérieux et c'est quand même aussi troublant que dans un lieu normalement où on devrait faire accueil à Dieu, où on pourrait finalement, réfléchir quelque peu à tout ce que nous avons déjà reçu comme enseignement, comme parole venant de Dieu, on s'aperçoit que Jésus a véritablement, c'est là où il va être, rejeté. On le voit par exemple lorsqu'il fait sa première prédication, lorsqu'il donne la, la primeur de l'annonce du royaume de Dieu dans la synagogue de Nazareth. À un moment donné, les gens qui l'ont connu, qui l'ont vu grandir, vont se saisir de lui, vont le jeter hors de la synagogue, et ils vont même aller plus loin, voulant le mettre à mort en le précipitant des pentes escarpées, eh bien de leur montagne. Donc, voilà, hein, c'est quelque chose assez contradictoire, mais c'est comme ça. Et Jésus va rentrer donc dans la synagogue, il va se passer quelque chose. Il nous est simplement rapporté par Matthieu que il y avait là un homme qui avait la main sèche, comprenait par là une main paralysée. Dans les termes de l'époque, on peut comprendre que cet homme, eh bien, n'avait plus l'usage et la mobilité de sa main, peut-être de son bras, en tous les cas, c'est son état. Alors, les gens qui étaient dans la synagogue, et particulièrement les autorités religieuses, sont venus voir Jésus et ils lui ont posé cette question saugrenue. Ouais, quand même, il faut quand même le reconnaître. Ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Alors, je vous pose la question à vous maintenant. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il se doit? Est-ce qu'il est décent? Est-ce que c'est normal que Dieu guérisse? Alors, je vais le transformer un petit peu selon nos us et coutumes, un dimanche. Voilà. Alors, on a l'habitude dans notre monde chrétien de dire le jour du Seigneur. Les Juifs, c'était le samedi. Mais là, eh bien, pour nous, ça serait le dimanche. Est-ce que il y a quelque chose, y aurait-il quelque chose de choquant de voir un homme, de voir quelqu'un qui se trouve dans la fortune, qui se trouve là aux prises avec une maladie, une infirmité ou un problème quelconque, que Dieu intervienne pour le délivrer ce jour-là? Ben, vous êtes acquiescé en me disant, ben non, c'est normal, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de temps pour qu'un homme qui est malheureux retrouve finalement le bonheur et retrouve la santé s'il est malade. C'est normal. Eh bien, ça n'allait pas de cette manière, finalement, dans eh bien, la mentalité des Juifs, de ceux qui se trouvaient là, ce jour-là, avec Jésus, avec cet homme, dans cette synagogue. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est simplement dit d'une manière lapidaire, c'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, on comprend tout de suite que les interrogateurs ne se mettent pas en peine de savoir si un homme est bien ou mal, s'il est malade, s'il est infirme, s'il a besoin de quelque chose. Parce que la question est arrivée directement comme une flèche à Jésus, c'est-à-dire que tout simplement, la question était posée avec des intentions, elle était posée avec préméditation pour pouvoir accuser Jésus et le mettre dans une situation de difficulté et ensuite, eh bien, de pouvoir peut-être aller plus loin et condamner Jésus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on connaît les intentions de ces gens. Normalement, quand on est dans une synagogue, que l'on soit dans une église, ou dans un temple, ou dans un lieu comme le nôtre qui nous réunit pour prier Dieu, on ne devrait pas avoir ce genre de questions. Est-ce que, véritablement, au sein d'un lieu qui se réclame de la présence de Dieu, y aurait-il la possibilité d'avoir des pensées d'accusation et de condamnation de quelqu'un? Là encore, vous allez me dire que non, l'inspiration devrait être tout autre. Eh bien, ça s'est vu ici, ça s'est vu ailleurs, et malheureusement, ça se voit encore aujourd'hui. Parce que je voudrais quand même remettre les choses en ordre. Quand on s'approche de Dieu, quand on entend la parole de Dieu, quand on reçoit l'Évangile, quand, eh bien là, nous sommes entretenus sur le plan moral, sur le plan spirituel, il ne devrait y avoir que de bonnes réactions. Ouais. Ça devrait convenir à tout le monde. Quand on entend parler de bien, quand on entend parler en bien, quand on entend le mot bénédiction, c'est-à-dire dire le bien, ça ne devrait pas, il ne devrait pas y avoir des conséquences ou des réactions contraires. Eh bien, pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Parce que je crois que les gens qui posaient la question à Jésus étaient des gens qui avaient du parti pris, des gens qui avaient des préjugés, qui étaient remplis d'idées préconçues et qui n'étaient pas seulement, eh bien là, animés de tout simplement, eh bien de questions et d'une comment dire, de quelque chose qui les embarrassait chez ce prédicateur de Nazareth. Mais il y avait plus que ça, il y avait de l'envie, il y avait de la haine également. C'était afin de pouvoir l'accuser. La question a été posée pour cela. Et le pauvre homme, lui, qui est dans l'infortune, qui est dans la misère, bon, on s'en moque. Il n'est qu'un prétexte, hein, tout simplement. Encore le dire ce soir, quand on est en présence de la Bible, quand on lit la Bible, l'Évangile, quand on s'entretient de Jésus, quand on est dans une disposition de prière ou de louange ou d'adoration vers Dieu, normalement, notre cœur, il doit avoir au fond de lui-même, ou nous devons avoir au fond de nous-mêmes, que de bonnes dispositions. Or, ils en avaient de très mauvaises. Alors, Jésus va leur répondre comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse. Et une sagesse qui n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse divine. Et vous allez voir la perspicacité que Jésus a. Il avait discerné qu'il y avait quelque chose de pernicieux, que c'était une question captieuse, qui avait finalement un petit peu les allures d'être la vérité, mais ce n'était pas la vérité, c'était quelque chose de monstrueux qu'il y avait derrière. Alors Jésus va leur répondre, et il va leur dire ceci, et il va les prendre à témoin, puisque la question est pour Jésus, mais lui il va retourner les choses, il va leur dire « Lequel d'entre vous ?» Donc, ils se disent, voilà, il prend la parole, mais il renvoie la question à ses détracteurs, à ces gens qui sont pleins de mauvaises intentions. « Lequel d'entre vous ?» Ils devaient se regarder en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un, c'est tous que Jésus va interpeller. « Lequel d'entre vous ?» Et il va prendre l'exemple tellement simpliste, tellement simple. Il va dire, mais imaginez-vous que vous ayez une brebis. Parce que bon, c'était des gens, même à Jérusalem, qui avaient des animaux, hein, qui avaient là toutes sortes de bêtes chez eux, certainement. Il dira, voilà, j'imagine que vous avez des brebis chez vous. Et s'il arrive qu'il y en a une qui se blesse, une qui tombe dans un ravin, ou qu'elle tombe dans une fosse, et que ça se trouve, et que ça tombe, malheureusement, un jour de sabbat, le jour où normalement on ne doit rien faire, on ne doit faire que prier, on ne doit pas sortir de chez soi, on doit avoir finalement une vie, entre guillemets, super sainte, ce jour-là. Alors, lequel d'entre vous, s'il a une brebis, qu'elle tombe, et qu'elle tombe ce jour-là dans, finalement, le jour de sabbat, lequel de vous va la laisser, va aller voir, et il va la regarder mourir. Il va la laisser s'enfoncer peut-être dans le ravin. Vous allez la voir, elle est blessée là, au fond d'un précipice, et que vous allez contempler en disant, bah, c'est le jour du sabbat, je ne fais rien. Pauvre bête. Voilà, on va la laisser mourir, rien à faire. Mais Jésus savait très bien que ces gens, et là c'est une magistrale démonstration d'un retour de flamme on pourrait dire, parce qu'il savait très bien qu'il n'y en avait aucun parmi ses accusateurs, il y en avait peut-être 5, il y en avait peut-être 10, il y en avait peut-être 20 autour de lui qui étaient en train de l'accuser, et il savait pertinemment, Jésus, qu'il n'y en ait aucun, même le jour du sabbat, aurait remonté sa robe, vous comprenez, hein, comme ça les juifs s'habillaient avec des robes, hein, serait descendu à toute vitesse et aurait remonté la brebis, en regardant si quelqu'un l'avait vu, parce que c'était un jour de sabbat, il l'aurait remonté chez lui, il l'aurait soigné. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein ? Jésus avait raison de dire cette parole qu'il convenait tout simplement d'attribuer à ce genre de personnage hypocrite. Eh oui, hypocrite. Et il va être sévère, Jésus. Il dira, mais combien ? Et là, je crois qu'on sent, on sent que Jésus est... Il y a comme... il est scandalisé en quelque sorte. C'est comme un outrage, voire même un blasphème. Un blasphème à Dieu et un blasphème à la vie. Il dira, mais combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Et on sent que Jésus, là, est démonté en quelque sorte. Jésus connaissait les saintes colères, hein, pas comme les nôtres. Parce que nous, quand on se met en colère, ça déborde de tous les côtés, et puis on ne produit pas le bien, on produit le mal. Mais Jésus voulait les amener à réfléchir dans leur conception, qui était une conception odieuse, de penser que parce que la brebis leur appartenait, ils seraient prêts à faire n'importe quoi, même un jour de sabbat, même à violer le sabbat de Dieu, pour aller chercher finalement la malheureuse bête et la ramener, alors qu'un homme qui se trouve dans la maison de Dieu, qui est paralysé, qui est un homme profondément, certainement dans la détresse, et il dit, mais un homme ne vaut-il pas plus qu'une bête, qu'une brebis? Vous savez, Jésus avait raison, hein, de se courroucer. Comme quelquefois, nous pouvons voir aussi des gens, privilégier quelquefois des choses qui ont une valeur relative par rapport à la vie humaine. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit et tout ce qu'on entend, on fait peu de cas de la vie humaine. Bon, dans notre pays, il y a encore des lois, il y a encore un certain équilibre, mais si on regarde un petit peu là, sur les champs de guerre, hein, ce que l'on peut imaginer, enfin oui, on peut imaginer, on ne peut qu'imaginer malheureusement, mais quelle détresse, quelle souffrance, alors que on fait tout pour, quelque part, écraser, humilier, détruire et ruiner la vie. C'est terrible, terrible. Ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Alors Jésus va en tirer la conclusion, et ils vont rien dire. Ils ne vont rien dire parce qu'ils n'ont rien à dire. Une conscience humaine devant les paroles de Jésus n'a plus rien à dire, surtout prise en défaut de cette manière. C'est odieux. Alors il dira, bah écoutez, moi je sais pertinemment que vous êtes capable de faire n'importe quoi pour sauver votre intérêt, et que vous n'êtes même pas capable d'avoir un regard de compassion pour cet homme dont la main est paralysée, et que moi je me propose finalement eh bien, de le guérir parce que j'ai le pouvoir de Dieu de le guérir, de le délivrer. Alors à ce moment-là, moi je vous donne le verdict. Je vous dis, eh bien moi je vous dis qu'il est permis de faire du bien le jour de sabbat. Cette phrase est quelque chose qui est un véritable un tonnerre en quelque sorte. De faire du bien. Mais c'est normal de faire du bien, n'est-ce pas? Ce qui est anormal, c'est de faire du mal. Ça, c'est contraire. Et il semblerait que l'homme a beaucoup plus de célérité, beaucoup plus d'élan pour faire le mal que pour faire le bien. Il s'agissait de sauver cet homme, de lui faire du bien, de le guérir. Fut-il guéri un jour, justement, où Dieu a demandé qu'on ne pouvait rien faire, qu'on n'allait pas travailler, qu'on n'allait pas sortir les bœufs et la charrue, qu'on n'allait pas, eh bien là, dans les ateliers ou ceci et cela, faire une œuvre quelconque, comme dans les six autres jours de la semaine. Mais faire du bien à un homme, mais c'est normal. C'est normal. Imaginez-vous que dans notre pays, le jour du dimanche, eh bien, on supprime toutes les urgences, le SAMU, et ceci et cela, c'est là où les gens sont plus sur les routes, et c'est là où il y a des accidents, hein, surtout à la belle saison. On leur dit, ben vous attendrez demain, on va vous opérer. Vous avez le temps de mourir. Hein. Non, non, mais il y a un bon sens. Il y a un bon sens. Et là, pour une question de religion, pour une conception qui était une mauvaise compréhension, finalement, à la fois de la personne de Dieu, de ce qu'est Dieu lui-même, eh bien de dire non, on ne fera pas le bien parce que c'est le jour de sabbat. Le sabbat est plus important que de faire le bien. Mais c'est fou, hein, une chose pareille. Quand les lois religieuses et les lois des hommes sont et prennent le pas et prennent le dessus sur les lois de Dieu. Dieu a toujours dit de faire le bien. Fût-ce finalement le jour qui lui était consacré, au contraire, d'autant plus. Alors il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Et Jésus va leur donner une leçon magistrale. Il va leur dire, eh bien écoute, il se tourne vers cet homme. Vous avez tous les petits bons hommes là qui sont en train d'accuser Jésus. Ils sont tout étonnés de la réponse qu'ils viennent d'entendre. Ils ne savent plus quoi répondre. Alors il va se tourner vers l'homme qui a la main paralysée. Et il va lui dire ceci, « Étends ta main !» Et cet homme, dans son infirmité, a cru Jésus. Il a cru davantage à Jésus que ceux qui lui disaient, « Reste tranquille, fais pas de bruit, hein, on s'occupe pas de toi aujourd'hui parce que c'est le sabbat. » Il aurait pu dire, « Mais moi je suis venu dans la maison de Dieu aujourd'hui pour me faire du bien. » Alors, Jésus va dire, eh bien, étends ta main, certainement dans un mouvement. Eh bien, il a voulu peut-être faire le geste. Et à ce moment-là, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Alors, qu'est-ce que les autres pouvaient dire? Jésus avait fait le bien un jour de sabbat à la barbe de tout le monde. Moi, j'aime bien dire ça. Ils avaient tous des barbes, sauf les dames. Voilà. Donc, ça, c'était patent. C'était probant. Que Jésus était Dieu et qu'il était le maître du sabbat, qu'il était le maître de tout, qu'il est le maître de la vie, qu'il est le maître du bien et qu'il domine le mal et qu'il domine la stupidité des hommes et la sottise humaine. Et là, c'était une sottise religieuse, hein, excusez-moi, mais quand même pas non plus. Jésus va donner raison par le geste, par la parole, mais par le geste. Mais ça ne leur suffit pas. Si nous avons bien entendu la suite, il nous est dit que les pharisiens sortirent. C'est eux qui sont sortis, vous rendez compte, ils étaient normalement chez eux. La synagogue, c'était chez eux. Et ils ne voulaient pas que n'importe qui fasse n'importe quoi dans leur synagogue. Alors c'est eux qui sont sortis. Ils sont sortis parce que quand Jésus est dans un endroit, le mal ne peut pas rester. Quand Jésus vient dans un cœur, le mal doit être évacué. C'est pas possible, il peut pas y avoir de cohabitation entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal. Alors ils sont sortis. Et comme ils étaient toujours aussi bien animés de bons sentiments à l'égard de Jésus, ils se sont mis à chuchoter là, certainement autour de la synagogue. Ils se sont consultés, puis c'est pas peu, hein, sur les moyens de faire périr Jésus, de le faire mourir, vous avez bien entendu ? Faire mourir Jésus. Fort heureusement, il y a un temps pour tout. Alors, ils ne pourront pas toucher à Jésus. Ils ne pourront rien faire à Jésus. Ils sont là dans un état de fureur. Parce qu'ils se sont fait quelque part humilier, mais c'est eux qui sont allés devant l'humiliation. C'est eux qui ont proposé finalement la question. S'ils avaient été animés d'une bonne intention, Jésus leur aurait rendu certainement, eh bien, une réponse qui aurait été une réponse à la fois spirituelle, intelligente et quelque chose qui les aurait fait un petit peu, qui aurait les amené à s'élever un petit peu plus de leur rudiment et de leur conception finalement mesquine et haineuse. Alors là, ils sont furieux au possible et ils vont comploter pour savoir comment ils vont pouvoir se débarrasser de Jésus. Mais pas se débarrasser pour l'envoyer en prison, pas l'envoyer en exil, mais le faire mourir, le faire périr, des pensées de mort. Ça ne sert à rien d'aller dans une synagogue, ou dans une église, ou dans un temple, si on en ressort comme on est rentré, avec la haine, avec la jalousie, avec la critique, avec une mauvaise langue, avec toutes ces choses de la sorte. Ça ne sert à rien. Quand on va et on s'approche de Dieu, le Seigneur veut changer notre vie. Il veut nous transformer. Il veut nous amener à naître de nouveau, à mourir à nous-mêmes, mourir à mes ressentiments qui m'empoisonnent, mourir à toutes ces choses qui me tourmentent dans des pensées quelquefois où je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Seigneur, délivre-moi de ce cœur impitoyable ou ce cœur dur. Mais si on prie comme ça, mais le Seigneur va nous transformer, nous changer. Jésus avait raison de dire, mais il faut que vous naissiez de nouveau si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme le grain de blé, il doit mourir en terre, et s'il meurt, alors à ce moment-là, il va revivre, il va renaître, il va ressusciter en quelque sorte. Eh bien, c'est ça le contact avec Dieu. Alors, ils ont voulu le faire mourir. Le temps viendra, quelques mois, quelques années plus tard, où là, il y en a peut-être certains qui étaient là ce jour-là dans cette synagogue, se sont dit, bien maintenant, on le tient, regardez, il est sur une croix. Il est cloué sur une croix. Il est attaché à la croix. Et d'ici quelques heures, il va mourir. Et le monde sera débarrassé d'un tel homme. Ouais. Parce que la haine était toujours la même. Ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus, hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. Alors, Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Parce que c'était pas son heure. Et je voudrais vous dire que quelquefois, nous pouvons être confrontés avec la haine. Avec la méchanceté des gens. Ça existe, hein. Ouais, oui. Mais c'est pas la peine d'essayer de combattre. C'est pas la peine d'essayer d'avoir raison parce que ce serait de l'orgueil. C'est pas nécessaire de vouloir prouver sa propre justice et que nous sommes dans notre bon droit. Laissez tout ça à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous connaissez le psaume 37? Vous le retrouverez. Quelquefois, on veut avoir raison. Mais Jésus n'a pas cherché à avoir raison. Il est parti, tout simplement. Il avait autre chose à faire, et quelquefois nous avons autre chose à faire que de nous bagarrer pour des bouts de ficelle, excusez-moi. T'as raison, j'ai raison, ceci, cela, etc. Passons à autre chose, laissons le Seigneur faire les choses. Mais, si les pharisiens ont pris un autre chemin, ils sont sortis de la synagogue et ils étaient complètement là en ébullition, écoutez bien ce qu'il est dit, une grande foule le suivit. Ça c'est intéressant. C'est qu'à ce moment-là, parmi tous ces hommes qui étaient dans la synagogue, mis à part ceux qui étaient en train d'accuser Jésus, il y avait des braves gens. Il y avait des gens qui avait envie d'autre chose que le blablabla des sermons dans la synagogue et que des lectures là qui endormaient les gens, de lectures de la loi, etc., etc. Parce qu'on y avait mis une forme, on y avait mis certainement un ton, on y avait mis une langueur qui finalement, eh bien, n'était certainement pas dynamisante parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle suscite la vie à l'intérieur de nous-mêmes. Elle crée de la joie et de la paix. Et on a envie d'entendre la parole de Dieu parce qu'elle nous fait du bien. Mais là, ils avaient tellement endormi depuis des siècles et des siècles, les gens. Quand ils ont entendu Jésus, ils se sont dit, bah, maintenant, on suit Jésus. On les suit plus, les autres, hein. Parce qu'ils nous endorment, hein. Pas besoin d'aller, si vous voulez faire la sieste. Vous pouvez aller à la synagogue. Vous allez dormir tranquille pendant 2 ou 3 heures. Voilà. Pas de somnifère. Tranquille. Alors, une grande foule le suivit. Et là, un jour de sabbat, figurez-vous. Quel scandale pour les collémontés. Il guérit tous les malades. Parce que ils avaient compris. Tous les gens avaient compris qu'un homme comme Jésus, qui avait été l'auteur de la guérison de cet homme qui avait une main paralysée et qui maintenant avait retrouvé tout simplement l'usage de sa main, ils se sont dit, maintenant, on sait qui on va suivre. Les autres, ils nous font toujours des promesses que Dieu ceci, Dieu cela, etc. Mais là, ils avaient compris, ils avaient entendu et ils avaient vu. Vous savez, le plus grand de tous les témoignages que nous avons à dire de Jésus et de l'Évangile, c'est l'expérience. C'est la parole et l'expérience de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne manque pas d'accomplir ce qu'il promet, tout simplement. Alors, il les a guéris. Mais il leur a dit, il les a recommandés sévèrement de ne le faire connaître à personne, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait dit. Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation? Jésus aurait pu dire, voilà, j'ai guéri un homme, j'ai guéri des dizaines aujourd'hui, le jour du sabbat. Il aurait pu dire, allez, faites-moi de la publicité, hein. Mettez ça dans les journaux, hein. Passez ça à la télévision, vous allez voir, ça va être formidable. Israël va se convertir. Jésus a dit, non, pas question. Hein. Non, non, vous gardez ça. Parce que c'est pas la peine de déclencher la haine avant le temps. Parce que c'était un jour de sabbat. Et comme la notion légale était tellement forte, était plus importante que Dieu, était plus importante que la loi vivante de Dieu, alors ils avaient tout mis sous une pesanteur, et Jésus dit, non, non, surtout n'allez pas le dire, parce que ils vont devenir fous avec ça. Oui. Vous savez, ce qui est important, et je voudrais le dire ce soir, mais vous l'entendez souvent, parce que ce qui est important, c'est de vivre la loi dans la foi. J'appelle ça la loi de la foi. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance au Seigneur. Et puis, nos traditions, nos coutumes, nos us et nos usages, il n'y en a pas un seul qui fait pareil. Nous avons nos usages ici dans notre pays. Vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique, vous allez en Extrême-Orient, vous allez en Amérique latine. Et voilà, il y a des usages différents, il y a des coutumes même dans le christianisme. Mais il y a une chose qui doit nous rassembler les uns et les autres, c'est notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos âmes. Et ça, ça change tout. Alors après, les autres feront ceci, feront cela. Il y en a qui respecteront, eh bien là, le sabbat. D'autres qui respecteront les nouvelles lunes. Vous les respectez, les nouvelles lunes, hein, Non, je plaisante. Mais voilà. Mais voilà, chacun sa façon de faire. Nous sommes dans un pays latin, vous comprenez, hein, romain et latin. Bon, ben voilà, tout simplement, mais... Moi, je dis qu'il n'y a qu'une vraie tradition, c'est la tradition qui vient de l'Évangile. Mais quand elle est vécue, non pas à la lettre, mais quand elle est vécue dans l'esprit. Ça, c'est autre chose, parce que c'est la vie à ce moment-là. Alors, il guérit tous les malades, et alors il le commanda de ne rien dire à personne. Et il y a cette belle citation sur laquelle je vais terminer. Il y a cette belle citation du prophète Ésaïe, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est le prophète qui est inspiré par Dieu. Il vivait 800 ans avant que Jésus ne vienne faire son apparition sur la terre. Mais cet homme, ce grand prophète d'Israël, avait reçu la pensée de Dieu, il avait parlé. C'est pour ça qu'il était prophète. Et Dieu lui avait fait dire par sa bouche, pour l'Israël de son temps, comme pour nous aujourd'hui, parce que nous comprenons bien ce que ça veut dire, Dieu avait fait dire ces paroles, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Celui que Dieu a choisi, c'était pas un sacrificateur, un prêtre, un lévite, et ceci ou cela, mais Dieu avait choisi Jésus. Il est le serviteur de l'Éternel. comme cela nous est dit dans Ésaïe chapitre 53, que vous pourrez lire, et dans tout le livre d'Ésaïe d'ailleurs. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Quand bien même les hommes voudraient le faire mourir, eh bien il ne mourra que quand moi le Père au ciel, je le décréterai. » Et Jésus finalement est mort, mais c'était dans la volonté de Dieu. Mais il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Et au temps convenable, pour le salut des hommes. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Ouais. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu incarné, venu sur la terre. Et le Père qui est resté au ciel a envoyé son Fils, celui qu'il aime, pour qu'il nous parle du ciel, pour qu'il nous parle des œuvres de Dieu, qu'il nous parle de notre destination éternelle, pour qu'il nous dise que si nous croyons en Jésus, son bien-aimé et son serviteur, à cause de son sacrifice expiatoire, et seulement si nous croyons en lui, simplement croyant en lui, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nos péchés sont expiés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ. Le péché a amené la mort, mais le don gratuit nous est donné par Jésus-Christ dans la mesure où je le reçois et je le garde au fond de moi-même. Et Dieu a dit, je mettrai mon esprit en lui. Quel esprit, Jésus? Vous avez remarqué, c'est avec un grand E, le mot esprit. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de puissance. Ouais. Et nous le voyons à travers tout son ministère sur cette terre. Comment Jésus a-t-il pu parler et dire les merveilles, les paroles merveilleuses qu'il nous a laissées? Écoutez les béatitudes, le sermon sur la montagne, les enseignements, les paraboles, et ceci et cela. Il a mis son esprit en lui. Mais non seulement Jésus a parlé, mais il a manifesté quelque chose que les hommes ont tant besoin, avaient tant besoin et que nous avons encore besoin aujourd'hui, c'est de croire à la puissance et à la grâce qui existe dans l'amour de Dieu pour tous les hommes, y compris, finalement, eh bien, même les plus abjects, oui. Jésus est venu sauver tous les hommes. Et tous ceux qui croient qu'ils ont besoin de salut, Jésus les sauve. Et le grand problème, c'est que Jésus a fait accueil, et le message de l'évangile a été davantage reçu par les petites gens, les mauvais gens, les pécheurs et tout ce que vous voulez, les prostituées les uns et les autres, alors que ces messieurs de la synagogue se disaient, mais nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous faisons notre salut par nous-mêmes, on n'a pas besoin de tout cela. Un Messie, ben, il ne viendra pas de Nazareth, hein. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Voilà. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Et tous ceux qui croient encore en Jésus-Christ aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur vous. Il peut vous baptiser du Saint-Esprit si vous le désirez. Mais il faut lui demander. Rempli de l'Esprit de Dieu. Il annoncera la justice aux nations. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y en a qui ont pris des bonnes leçons, hein. Ah oui. Et puis toutes sortes de choses comme ça. La justice. Et la justice, quelle est-elle dans l'Évangile? Eh bien, la justice, elle est exactement la contraire de la justice que nous avons sur la terre. Oui, parce que nous sommes dans un monde d'injustice. Même s'il y a un désir de faire de la justice, mais tout se fait d'une manière tellement humaine, tellement charnelle, tellement imprégnée finalement d'un mécanisme qui est celui du péché, que la justice sur cette terre, comme dira le prophète Jérémie, me semble-t-il, votre justice n'est comme un vêtement souillé. Mais la justice de Dieu, elle est toute différente. Vous l'avez dans les béatitudes. Oui, ça semble bizarre, hein. Mais quand Jésus, soyez heureux, vous qui pleurez, parce que demain vous serez consolés. Soyez heureux, vous, auxquels, eh bien, on a humilié l'âme, on a détruit la vie, parce qu'un jour vous serez justifiés. Soyez heureux parce que vous avez faim et soif, mais dans le royaume de Dieu, vous serez rassasiés. Soyez heureux, vous qui avez le cœur pur, devant toutes les horreurs qu'il y a dans votre monde, parce que c'est comme ça que vous verrez Dieu. Soyez heureux lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous, qu'on vous persécutera, que, à cause de mon nom, parce que c'est comme ça qu'on a traité les prophètes, mais vous aurez votre place dans le ciel avec moi. C'est ça la justice. Et celle-là, elle est pas facile, parce qu'on aimerait bien que, quelquefois, on nous passe la main dans le dos en disant, t'es beau, t'es gentil, t'es mignon, hein. Mais oui, mais ça va dans le sens. Ça va dans le sens que nous aimons. Mais quelquefois, eh bien, la justice de Dieu, elle n'est pas là. Mais pourtant, il a annoncé. Il ne contestera point, il ne criera point. Ah, que l'on est loin de nos réunion de réveil évangélique, où les gens se mettent à crier, à sauter au plafond, à faire toutes sortes de rugissements, et boum, 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 ça s'en va dans tous les sens. Il ne criera point. Il ne contestera point. On a cherché Jésus pour lui faire du mal. S'en aller, il cherchait pas, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Crier. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin que l'on crie pour qu'il entende? Lui qui a fait l'oreille et qui a fait l'œil, est-ce que vous croyez qu'il ne serait pas capable d'entendre et de voir, puisqu'il est le Créateur? Il y a des gens qui se mettent à hurler. Mais hurler, c'est une chose, prier, c'en est une autre. On n'est pas obligé d'ouvrir la bouche pour prier. Oui. Et moi, de temps en temps, dans les réunions de prière, je vous dis ouvrez la bouche quand même, parce qu'autrement... autrement, on va s'endormir. Voilà. Il y a une mesure en tout, naturellement. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Jésus n'a pas eu à faire la publicité. Vous savez, aujourd'hui, on fait un grand renfort. Mais qu'est-ce qu'on essaie de convaincre? On essaie de convaincre à une religion, à une philosophie religieuse, à notre parti, parce que nous disons, ben, il y a quand même que nous qui sommes dans la vérité. Non, non. Le Seigneur lui a montré l'exemple. Il n'a pas crié dans les vies en disant « C'est moi le Messie, vous devez croire en moi, autrement vous irez en enfer. » Pas du tout. Il n'a jamais forcé personne à se convertir. Il a fait des propositions. Il est allé parler au cœur des hommes. Il est allé susciter au niveau de leur conscience et de leur intelligence eh bien ce qui était propre à les amener à Dieu. Mais il a laissé libre. Regardez le jeune homme riche qui est reparti en disant non à Jésus. Et il y en a d'autres comme ça. Et il y en a d'autres encore aujourd'hui. Jésus offre. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Si moi j'offre un cadeau et que la personne n'en veut pas, puis que je commence à lui taper dessus en disant « Tu vas prendre mon cadeau parce que c'est mon cadeau. » C'est plus un cadeau à ce moment-là. C'est non, non, mais c'est vrai. Et moi je crois que c'est la grâce, c'est la flexibilité, c'est la souplesse avec Jésus. Parce que tout ce qu'il fait, c'est empreint d'amour et de compassion pour les hommes. Je veux ou je ne veux pas. J'accepte ou non. Alors, c'est pour cela que il y a cette belle parole, et je vais finir dessus. Il nous est dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Ouais. Que de roseaux cassés dans notre monde. Que de roseaux qui ploient sous les vents contraires de la vie. Qui ploient parce que la maladie est là dans leur existence, qui ploient parce que ils ont perdu leur travail, qui ploient parce que leur famille a explosé, qui ploient parce que finalement ils n'ont plus de moyens d'une manière ou d'une autre pour vivre. Des roseaux cassés, il y en a autour de nous, des millions et des millions. Et écoutez bien ce qu'il nous est dit, et c'est ça justement toute la délicatesse de Dieu. Il ne brisera pas leur roseau cassé. C'est pas parce qu'il est cassé qu'il faut monter dessus. C'est pas parce qu'il est cassé qu'il faut absolument en abuser. Non, Jésus est venu dire au roseau cassé, bien viens, moi je vais te reprendre et je vais te remettre droit. Tu seras un homme, parce qu'un homme normalement il est debout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont cassés, qui sont par terre, qui sont couchés, qui sont sur le flanc. Et bien précisément Jésus est venu pour bénir tous ces hommes-là. Et c'est souvent dans notre misère que nous appelons Dieu. On aurait dû le faire avant, quand ça allait bien, mais on a oublié. Alors on vient que quand on dit « Mais Seigneur, je peux plus m'en sortir tout seul. » Eh bien, quand le Seigneur entend ce genre de prière, il est encore là auprès de nous pour nous relever. Il ne brise pas le roseau cassé. Si vous avez là, eh bien, un état où vous sentez cassé à l'intérieur, eh bien, Dieu va vous relever. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il y a de quoi être brisé dans notre cœur, hein, tous les jours. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais le Seigneur est venu nous guérir les cœurs brisés. Au niveau sentimental, au niveau affectif, où il y a des dégâts considérables. Et puis, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Vous avez tous vu quelquefois une bougie quand elle arrive au bout. Hein, elle est bien vive quand elle est là, en plein développement de lumière. Puis à un moment donné, voilà, hein, ça va s'éteindre. Hein. Ça ne s'éteint pas sur le coup, mais... ça va comme ça pendant 2 ou 3 minutes, et puis à un moment donné, il n'y aura plus rien du tout. Nous, on souffle dessus, comme ça, ça va plus vite. Eh bien, justement, tous ceux qui sont là, quelquefois à s'éteindre, vous savez, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des hommes et des femmes là, qui sont en train de s'éteindre. Ouais. Mais c'est pas forcément de s'éteindre dans la mort comme on l'entend, parce qu'ils n'ont plus la vie à l'intérieur, ils n'ont plus la vie morale, ils sont cassés à l'intérieur. ils sont prêts à s'éteindre. Et quelquefois, ils se donnent la main pour s'éteindre. C'est ce qu'on appelle le suicide. Parce qu'ils ne croient plus en la vie, ils sont dans le désespoir, ils se disent « Mais à quoi bon vivre ? Ça sert à quoi de vivre ?» Eh bien, vous savez, pour tout cela, Jésus leur dit « Je ne suis pas venu éteindre le lumignon qui fume. » Et les uns et les autres qui sommes là, on connaît l'Évangile, peut-être vous avez eu une semaine difficile, ou vous avez peut-être des questions qui sont au fond de votre cœur, ou vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est là prêt à s'éteindre. Eh bien, sachez, en tous les cas, vous le savez, vous pourrez leur dire, et on peut se le dire les uns et les autres, c'est que Jésus n'est pas là pour nous éteindre, il est là pour nous rallumer. Ouais. Il est là pour raviver l'espérance. Il est là pour nous donner quelque chose que nous avons perdu, le sens que nous avons perdu, et nous ramener à la vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle justement eh bien, la conversion. Souvent, lorsque nous sommes venus au Seigneur, on était éteints, presque éteints. Pas éteints, mais presque éteints, mais à la dernière étincelle. Et le Seigneur, par l'évangile que j'ai entendu, que vous avez entendu, eh bien, il nous a donné de revoir qu'il y avait encore le ciel bleu au-dessus de notre tête et qu'il y avait encore des perspectives et de l'avenir et qu'il y avait de l'espérance. Je ne suis pas venu éteindre le lumignon qui fume. Vous avez une espérance, vous attendez quelque chose. C'est comme si tout cela diminuait de plus en plus en disant « Mais ça va s'éteindre à un moment donné. » Eh bien, attendez-vous à ce que le Seigneur souffle dessus et il va redonner une nouvelle vie. Et ce que vous attendez, ce que vous espérez, eh bien, le Seigneur va vous servir. Il va vous le donner. Et je finis. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et que les nations espèrent en lui. Merci Seigneur, parce que ça fait 2000 ans que des hommes et des femmes de tous les temps, là où le message de Jésus-Christ est venu, là où il y avait des roseaux cassés, là où il y avait des lumignons qui fumaient, à travers tous les siècles, eh bien le Seigneur est venu pour ranimer, pour apporter le salut, pour apporter le pardon de Dieu, pour apporter tout simplement la vie. Les nations espéreront en toi. C'est formidable. Croyez bien que moi, je ne pense pas à la religion. C'est pas elle qui a porté l'héritage de l'Évangile. Ce sont des hommes et des femmes par millions à travers l'histoire des sociétés, l'histoire des civilisations qui ont gardé dans leur cœur les paroles précieuses et la personne de Jésus. C'est pas la religion. La religion, c'est la synagogue. On laisse ça à sa place. Mais là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la présentation de Jésus, là où on dit que Jésus est vivant, il est encore vivant aujourd'hui, eh bien, nos cœurs sont remplis de Jésus. Écoutez bien, les nations espéreront en lui. Et nous en faisons partie. Je terminerai par un dernier texte, Ésaïe, qui est très beau, écoutez bien. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Les uns et les autres, hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est moi qui t'ai formé. Ne crains rien, je te rachète. Il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est pas trop tard pour le dépressif de dire, eh bien Seigneur, guéris-moi. Il n'est pas trop tard pour celui qui est dans le désespoir, eh bien, d'implorer le Seigneur et de lui dire, sauve-moi. Alors, Dieu poursuit, il nous dit, mais je t'appelle par ton nom. Vous savez que Dieu nous connaît ? Ouais, il lit notre carte d'identité à l'endroit et à l'envers en même temps. Il connaît tout, même notre numéro de sécurité sociale, imaginez-vous. Hein ? Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Ça, c'est extraordinaire de dire que le Seigneur, je lui appartiens. Et je dirais en retour, il m'appartient. Je suis à lui, il est à moi. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. D'accord ? Si les fleuves venaient à passer, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Gardons dans notre cœur cette parole, parce que c'est une parole vivante, c'est une parole puissante, et c'est une parole de foi et d'espérance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est par la vertu de ton Esprit Saint, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas une parole humaine. Mais nous croyons que Jésus est toujours vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant encore aujourd'hui. Il demeure le vivant à toujours. Et nous savons que les hommes passent sur cette terre. Et nous savons que sur les hommes passent des drames, des infirmités, la maladie. des détresses, toutes sortes de choses, Seigneur, qui appartiennent à cette condition humaine. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as fait la promesse ce soir qu'en effet, tu étais venu pour ranimer la petite flamme. Tu étais venu pour redresser celui qui est courbé. Tu étais venu guérir, en effet, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le corps brisé. Seigneur, Seigneur, je te demande de bénir tous mes amis ce soir, de les bénir par ta parole, parce qu'elle suscite la foi. Elle stimule notre espérance, non pas à regarder à nous-mêmes ou aux choses terribles de la terre, mais à regarder vers le ciel. Parce que si la terre est limitée, le ciel est infini. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toutes les possibilités sont en toi, Jésus. Alors merci. Merci, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et sauve encore. Au nom de Christ, notre Père. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.